bonsoir. 30 juin 1960, 30 juin 2016. Voilà 56 ans que la RDC a accédé à son indépendance. Mais quel rôle la ville de Kisangani a-t-elle joué sur les plans politiques, sécuritaires et économiques dans l'histoire de la République? Trois invités sont autour de cette table pour aborder cette thématique. Il s'agit du professeur Alphonse Mahindo. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et FIDH, également président du groupe Lotus ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani. Nous vous avons annoncé, nous devrions avoir la participation dans cette émission de Robert Osunja, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo de l'ex-province orientale, mais il n'est pas encore là jusque maintenant, mais il y a un quatrième invité, c'est Pierre Kibaka, coordonnateur du groupe Justice et Libération, une ONG basée ici à Kisangani. Bonsoir Monsieur Kibaka.
Bonsoir.
Alors il y a un invité très important dans cette émission. Le quatrième ou le cinquième invité même, c'est le public de Kisangani. Est-ce que Kisangani est là? Est-ce que Kisangani est là? Merci beaucoup. Je vous signale que cette émission se déroule en direct de Kisangani. Nous sommes dans la salle Jean Fina de l'Alliance française de Kisangani. Guy Matensongwa sur la réalisation de cette émission, assisté par Aliana Ali Panagama et André Kitenge. Sylvain Matundu est à la technique. Alain Roumouchi, je vous la présente. Bienvenue à tous dans votre émission. Est-ce que Kisangani est encore là? Kisangani Boyoma Singa Mwambe. Et donc, chers auditeurs, comme nous l'avons dit, cette émission fait le bilan des 56 ans du rôle joué par la ville de Kisangani, 56 ans après l'indépendance de la RDC. Et nous le savons, comme nous l'avons dit, nous allons prendre les deux premières décennies, des 60 à 80. Sur le plan politique notamment, il y a des faits importants. En 1961, cela déjà après la mort de Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga prend la tête d'un gouvernement sécessionniste, celui de Kinshasa à Stanleyville. En 1964, la République populaire Congo est créée et la présidence est confiée à Christophe Beignet. Professeur Alphonse Mahindo, je commence par vous. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Est-ce que le qualificatif Kisangani, fief du nationalisme, se justifie-t-il?
Bon, il me semble que ce qualificatif est justifié. Quand on regarde un peu l'histoire de cette ville, autrefois appelée Stanleyville, en termes de mobilisation dans les années 60, on peut bien voir qu'il y a une... On peut dire que c'est vraiment le berceau du nationalisme. Et ce qu'on on prend octobre 59, si on fait un peu court, on prend octobre 59, il y a le congrès national du mouvement national pour le Congo, donc l'UMNC, qui s'est réuni ici à Kisangani, au SEC, à Mangobo, pour décider de ce qu'il faut faire comme en initiative. Et ça va déboucher aux émeutes d'octobre de Stanleyville, et qui ont mobilisé et qui vont finir par contribuer au mouvement général de revendication indépendantiste. Alors, mais si on regarde également en termes de participants à ces mouvements-là, on voit que Kisangani, il y a des gens qui viennent de partout. C'est une ville carrefour, en fait, qui regroupe des gens qui viennent de l'Est, des gens de l'Ouest, mais également des gens du Centre. Et donc, on voit que là, les premières élections qu'on va avoir pour mettre en place le premier gouvernement postcolonial, c'est les nationalistes qui vont triompher dans cette partie du Congo. Et donc, c'est là qu'on va avoir des scores très, très, très élevés, dignes, on va dire, des régimes staliniens. On a plus de 90% des suffrages qui sont favorables à la coalition du MNC et des nationalistes. Donc, on peut bien dire que Stanleyville et toute la province orientale, ça a été véritablement un bastion du nationalisme. Et lorsque Patrice Emery Lumumba est neutralisé dans la capitale Léopoldville, Justement, c'est là que se replient les partisans du nationalisme. D'abord, pour essayer de revendiquer la légitimité du pouvoir central de Kinshasa. Ensuite, plus tard, c'est carrément pour prendre un mouvement d'insurrection populaire qui va proclamer la République du Congo. Donc, on a eu République populaire, ensuite on a eu République démocratique avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec Beignet comme président. Donc, on est là, vraiment dans un fief nationaliste.
Dismas Kitenge, vous êtes vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, également président du groupe Lotus ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani. Kisangani, ville carrefour, dit professeur Maindo. Est-ce que Kisangani ne serait pas dans cette portion de l'histoire de la RDC entre 60 et 80, Kisangani ne serait-elle pas privilégiée par sa position géostratégique?
Oui, quand on regarde Kisangani, de par sa position géographique, c'est vraiment le carrefour. Ça fait les liens entre l'Est et l'Ouest. Kisangani aussi par sa position sociale, c'est-à-dire une ville, comme disait tout à l'heure, le premier intervenant, c'est le carrefour de différentes tribus, des différentes ethnies, des différents peuples qui viennent de tous les coins de la RDC et qui se retrouvent ici dans cette ville. Je dirais aussi économiquement Kisangani est aussi un carrefour. Carrefour, c'est-à-dire l'évacuation de produits qui viennent par la route de la partie est qui arrivent ici, qui doivent être évacués sur Kinshasa par la voie fluviale. Donc Kisangani vraiment c'est le carrefour. Kisangani aussi c'est le carrefour de cette prise de conscience politique, de cette prise de conscience de vivre dans un même espace qui après verra le jour sous les vocables qu'on peut accepter, sur lesquels on peut discuter la nation congolaise, puisqu'on voit Lumumba qui vient du Kasaï, qui passe par Kindu, qui arrive ici, et on voit les premières associations. Je vais prendre aussi les problèmes du point de vue associatif, du point de vue société civile. Et les premières associations qui se créent à Kisangani, si on voit la composition de leurs membres, c'est vraiment multiculturel. Multitribal. Donc Kisangani n'a pas connu ces phénomènes de tribalisation, c'est vraiment les carrefours des tribus et ça a contribué et assez efficacement à la prise de conscience d'appartenir à un espace, à un État et le vouloir vivre collectif a eu également ses soubassements à partir de la ville de Kisangani.
Pierre Kibaka, vous êtes coordonnateur du groupe Justice et Libération, basé ici à Kisangani. Dismas Kitenge affirme que Kisangani, sur le plan économique, il a également effleuré, reste le carrefour où passent tous les commerces possibles. Est-ce que de votre point de vue, à cette époque, on est pendant la période où l'or vert, le café, bat son plein, est-ce que l'essor économique de Kisangani était garanti en ce temps-là?
Bon, en fait, comme Dismas l'a dit, Kisangani, et en particulier la province orientale, la générale, vous devrez le savoir, à travers la République, c'était l'une des provinces qui produisait le plus de produits agricoles dans la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez dit, Kisangani et la province orientale étaient la grande province qui produisait du coton, qui produisait de l'huile de palme, qui produisait les arachides et qui produisait tous ces produits. Et tous ces produits ont servi à l'économie nationale du pays. Parce que la consommation ne pouvait pas se limiter seulement à Kisangani. C'est comme ça que, à travers la voie fluviale particulièrement, on a évacué tous ces produits vers les autres centres de la République. Mais malheureusement, comme vous l'avez souligné à l'introduction, avec tous les mouvements qu'on a connus dans cette ville durant cette période, donc tous les mouvements de rébellion, toutes les sécessions qu'on a connues, ça a un peu freiné l'élan économique de la province orientale et même de Kisangani. Donc, bref, je pourrais confirmer que à cette époque-là, même à l'accession du pays à l'indépendance, s'il y avait une province qui pouvait être comptée parmi les greniers de la République, il y a aussi la province orientale, parce que, comme je l'ai dit, en dehors de l'agriculture, il y avait beaucoup d'élevage quand vous allez dans les touris, mais malheureusement, ce sont toutes ces rébellions, tous ces mouvements armés qui sont venus un peu freiner cet élan. Et aujourd'hui, comme Dismas l'a dit, Kisangani, c'est le grand carrefour, pas seulement de l'Est à l'Ouest de la République démocratique du Congo, mais même de l'Est de l'Afrique jusqu'à l'Ouest de notre continent. Parce que à partir de Kisangani, on peut facilement atteindre Mombasa au Kenya par voie routière, et de Mombasa, on peut directement aller sur Kinshasa à partir de Kisangani, et pourquoi pas arriver à Matadi et évacuer les produits. C'est comme aussi, il y avait des voies qui pouvaient partir de la Tanzanie vous arrivez jusqu'à Kisangani pour évacuer tous les produits. Donc Kisangani, c'était vraiment un grand carrefour économique dans le pays.
Voilà. Professeur Mahindo, très rapidement, Kisangani, grenier agricole, carrefour idéologique, politique, socioculturel, mais un mot sur l'aspect sécuritaire, c'est quand même une période où Kisangani est le ventre mou de la République.
Oui, évidemment, quand on évoque ici le rôle économique de la ville de Stanleyville à l'époque, parce qu'on parle pas encore de Kisangani en ce temps-là, donc on voit bien qu'il y a un rôle économique majeur qui est là, c'est une espèce d'entrepôt ici. Cette ville, on l'a appelée une ville-entrepôt, où il y a des produits qui viennent des différents coins de l'Est et qui arrivent ici soit par la route, soit par la voie ferroviaire, et qui après est évacué sur Kinshasa par la voie fluviale. Alors maintenant, en ce qui concerne le plan sécuritaire, Kisangani, qui a été, si vous voulez, je disais, à l'avant-première lors de mobilisation pour l'indépendance, va l'être aussi pour, si vous voulez, consolider, pour défendre ses acquis de l'indépendance, notamment en ce qui concerne la défense de la légitimité, de la légalité qu'incarnait le gouvernement de Patrice Emery Lumumba. Et c'est pour ça que les partisans de Lumumba vont déclencher des mouvements insurrectionnels ici à l'Est et ils vont faire de Stanleyville leur capitale. Et donc ça va être ici une zone de turbulence forte sur le plan politique et sécuritaire. Et c'est ce qui va faire en sorte que pendant donc de 64, si vous voulez, 63-64, on va voir ici la capitale qui représente la légitimité, qui veut, c'est le mot de l'époque qui était utilisé. Donc, et qui va être, qui sera arrêté grâce à l'intervention des parachutistes belges, mais aussi des mercenaires,
avec Bob Denard notamment et Georges Cram,
et qui vont aider à, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, libérer entre guillemets la ville de Stanleyville.
Alors nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Je vois déjà des mains qui se lèvent. André, tu peux nous aider à donner le micro à quelqu'un. Dès que vous avez le micro, veuillez vous présenter s'il vous plaît et poser votre question.
Oui, merci. Je m'appelle Temple Afolo. J'habite Mangobo, c'est-à-dire la commune que Lumumba habitait. Alors je suis vraiment passionné de Lumumba et de Tshisekedi aussi, tant que nationaliste. Je m'adresse au professeur Mahindo. Mais avant tout d'abord, je voulais d'abord, en passant, donner les propos que Lumumba a tenus lors de son passage quand il traversait la rivière Sankoro dans la nuit du 1er décembre 1961. Chers compatriotes, ne nous faites pas revenir en arrière. Nous avons déjà traversé la rivière Sankoro. Nous sommes déjà sur l'autre rive. Nous devons atteindre Kisangani, d'où partira la libération totale du Congo. Ça, c'est Lumumba.
Alors, quelle est votre question?
Voilà ma question, professeur Mahindo. Quel sera, si Lumumba traversait la rivière Sankoro et atteignait Kisangani, que deviendrait le sort du Congo?
Merci beaucoup. Nous prenons une deuxième question.
Oui, merci la Radio Capi, merci aux intervenants. Je suis d'accord avec tous les intervenants, entre autres le professeur Mahindo, monsieur Dismas Kitenge, ainsi que monsieur Dismas Kitenge. Je réponds depuis Justin Poussungaba, je suis observateur de la scène politique dans la ville province de Kisangani. Je suis d'accord avec tout ce qu'il disait tout à l'heure, que Kisangani était jadis le bastion du nationalisme, jadis le bastion de la prise de conscience, et jadis le bastion du multipartisme, du conscience. Mais ma question est la suivante. Monsieur le professeur, monsieur Dismas Kitenge, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Kisangani est devenue la ville où on n'a pas un leader politique qui puisse quand même continuer à susciter ce bastion-là pour que Kisangani aujourd'hui devienne le bastion de la RDC et que Kisangani devienne aujourd'hui le leader dans le sphère politique. Puisque si nous devons le constater très bien, Kisangani est devenu le dernier bastion de la vie politique en RDC.
Merci beaucoup. Y a-t-il une question pour Pierre Kibaka? Parce qu'il y en a déjà une pour le prof, une pour Dismas, pour Pierre Kibaka.
Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, c'est Fidèle Amile Mboukou, habitant de la ville de Kisangani. Ma question, je la pose au doyen Pierre Kibaka, parce que quelque part, il a dit que Kisangani, à l'époque, c'était le grenier de notre pays. Et aujourd'hui, il s'est affirmé pour dire que ça a été stoppé suite à des guerres et beaucoup de choses que nous avons connues ici dans notre ville. Il semble qu'aujourd'hui, nous avons la paix à Kisangani, et tout se va bien, tout est bien ici à Kisangani. Alors, pourquoi nous ne pouvons plus parler encore aujourd'hui de Kisangani comme un grenier agricole en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup. Nous allons prendre les réponses des invités. Pierre Kibaka, comment vous réagissez à la question qui vous a été posée?
Je remercie Fidel pour sa question. Mais je dirais simplement que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, toutes les guerres que Kisangani a connues ont pratiquement mis à genoux l'économie de la province. Je vous avais dit tout à l'heure que Kisangani particulièrement et la province orientale en général étaient les grands greniers agricoles parce qu'on produisait tout ici. Je vous donne un exemple. Dans les bas huilés, il y avait une grande production du coton à l'époque. Mais aujourd'hui, la Soteski, qui est notre société nationale ici, pour fabriquer des tissus, doit importer le coton à l'extérieur de la province, même à l'extérieur du pays. Vous comprenez que la destruction de toutes ces grandes plantations de café, de thé qu'il y avait dans la ville, il est difficile aujourd'hui qu'on puisse les reconstruire en un jour. Donc tous ces éléments ont fait que, comme je l'ai dit, toutes les guerres, la zaïrénisation de l'époque que nous avons connue, même la récession, tous ces éléments ont fait que l'économie est mise pratiquement à genoux. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y a une certaine reprise, mais il est difficile en ce moment de parler d'une totale reprise de la vie économique. Si à Kisangani, on commence à remarquer, par exemple, qu'il y a de nouvelles constructions qui se font, s'il y a peut-être plus de véhicules aujourd'hui qu'hier, cela ne signifie pas que l'économie a totalement repris dans notre ville. Donc il faudrait vraiment des efforts supplémentaires pour que cette économie redevienne ce qu'elle était dans les temps.
Voilà, et puis il faut signaler que dans la dernière partie de cette émission, nous allons la consacrer aux défis, aux propositions pour que la ville de Kisangani se développe et aille de plus en plus loin. Dismas Kitenge, qu'est-ce que vous répondez à la question qui vous a été posée?
Absence de leader politique, je dirais que c'est très fort. Mais les leaders ont eu lieu dans la province orientale, dans la ville de Kisangani, à des moments différents. Il fut des moments où il y avait vraiment une affirmation des leaders politiques. Il fut des moments où il y avait cette carence ou cette insuffisance. Mais à mon sens, il y a quatre éléments qui peuvent expliquer l'absence ou la présence d'un leader. Le premier élément, c'est l'élément historique. Il faut voir l'histoire de la ville de Kisangani. C'est une histoire émaillée de faits dynamiques, à la fois de faits malheureux et de faits heureux. Bon, avant l'indépendance et jusqu'au moment où le pays accède à l'indépendance, Kisangani avec Lumumba jouait un rôle important. Il y avait les leaders, il y avait les Lumumba, Jean Fina, la salle où nous sommes. Il y a aussi des facteurs psychologiques. Des facteurs psychologiques, c'est la psychose qui gagne les gens, qui s'en gagne à souffrir de beaucoup de rébellions. Et à cette période de 60 à 80, n'oubliez pas les rébellions de 64. Et c'était la ville martyre, c'est la ville qui a plus souffert de cette rébellion-là. Il y a aussi des facteurs politiques. Il faut voir la combinaison de plusieurs éléments. L'attachement des partis politiques, soit à telle tendance ou les partis au pouvoir. Il y a aussi le facteur culturel. À mon avis, la combinaison de ces quatre éléments-là, si vous le facteur culturel, c'est aussi la présence des institutions d'enseignement, ça peut être aussi la présence ou le rôle des associations à caractère tribal. Voilà. Donc, toute la combinaison de ces quatre éléments peuvent expliquer l'histoire des leaders à Kisangani. Il fut au moment où on peut avoir des leaders et de moments où on n'en a pas. Mais tout, c'est la dynamique de la société. Donc moi, je pense qu'il faut voir cette question avec une certaine relativité.
Et donc, il faut la nuancer.
Il faut la nuancer.
Professeur Maïno.
Oui, merci bien. Je vais répondre à... Parce que la question sur les leaders m'a été aussi adressée, si j'ai bien compris.
Absolument.
Donc, je voudrais peut-être ajouter un petit élément par rapport à cette question sur les leaders. On ne peut pas dire qu'il manque véritablement des leaders dans cette ville de Kisangani. Ça dépend de ce qu'on met dans les concepts de leaders politiques. Alors, si on prend simplement deux grandes catégories de leaders. On prend ce qu'on appelle leader de transaction et leader de recomposition. Alors, leader de transaction, c'est un leader qui est là, qui dit aux gens, je suis votre chef, je vous suis. C'est-à-dire quoi? Donc, en échange d'un certain nombre de services que les gens vont, qu'il offre aux gens et il obtient des soutiens. Donc il monnaie en quelque sorte l'adhésion à lui. Et ces gens-là, on en a nombreux ici. Je ne voudrais pas citer tous ces gens autour desquels on se recourt. J'ai récemment lu un courrier où on dénonçait les oisets de la province. C'est justement ces gens-là, les leaders, voyez-vous, qui sont là, qui transigent pour obtenir des postes pour les gens, etc. Ça, c'est leader de transaction. Mais il y a également leader de recomposition. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a un véritable déficit. C'est le leader qui, lui, c'est le chef, il est là et les gens le suivent. Donc, il a des idées, il a une cause, et les gens adhèrent à ça. Et donc, il fédère les gens parce qu'il a, il incarne une idée, une idéologie qui font que les gens vont s'identifier en lui, vont adhérer à lui. Et ça manque véritablement dans la ville. C'est peut-être ça faudrait souligner. Alors, peut-être qu'un autre élément important qui est lié à la culture qu'évoquait tout à l'heure Dismas Kitenge, si on se réfère notamment aux travaux de Max Weber et de Barrington Moore, qui essaient d'expliquer par ce qu'on appelle la théorie des affinités, on voit bien qu'on peut avoir, si vous voulez, dans une culture des conditions de possibilité de création. Quelles sont les conditions de possibilité de création des leaders ici? On regarde, on est dans une zone, dans une région où il y a des sociétés dites acéphales, selon l'anthropologie. Et donc, c'est des petites communautés, il manque des véritables chefs. C'est pas très hiérarchisé et centralisé. Donc, possibilité à ce qu'il y ait des petits chefs un peu partout, et donc pas quelqu'un qui puisse fédérer tout le monde pour diriger. Alors, pour passer à la question, rapidement à la question sur Lumumba. Alors, je voudrais dire que si Lumumba avait pu franchir les Rubicons, j'allais dire ça comme ça, l'histoire du Congo aurait connu, si vous voulez, une destinée différente. Ben, il serait vivant, il aurait pu conduire la République, on n'aurait pas connu 30 ans de mobutisme, on aurait connu une autre destinée. Il me semble que là, on a manqué l'histoire. Mais il ne faut pas chercher à réécrire l'histoire. Puisque les gestes que Lumumba a posés en ce temps-là montrent bien, si vous voulez, le fait qu'on ne peut pas sacrifier sa famille au profit d'une nation. Finalement, la nation, c'est aussi sa famille.
Et que la nation est plus grande.
Et la nation est plus grande. Et là, il n'a pas voulu abandonner sa femme et ses enfants, si vous voulez, entre les mains des barbares, j'allais dire comme ça. Il a préféré revenir. Et il était convaincu qu'il pourrait convaincre ces gens. Et évidemment, il avait presque convaincu les militaires laisser partir. Mais malheureusement, les autres sont arrivés et ça a empêché.
Oui. Merci, professeur. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Vous comprenez que nous n'avons pas tout le temps. Ne vous en faites pas. On aura on aura le temps de vous donner la parole pour poser des questions. Mais je souhaiterais que vous puissiez acclamer d'abord pour vous-même. Merci beaucoup. Je signale que là, c'est le public de Kisangani Boyoma Singamwambe. Nous sommes en direct de l'ex-ville de Stanleyville, dans la salle Jean Fina de l'Alliance française de Kisangani. Nous prenons la deuxième partie de cette émission. Nous allons de 80 à 2000. Il y a beaucoup d'événements sur le plan politique. Dans les années 80, il y a le mouvement des 13 parlementaires qui élève la voix contre le régime Mobutu. Dismas Kitenge, comment la ville de Kisangani a-t-elle vécu ce moment particulièrement?
C'est vrai, c'était un moment terrible. Nous sommes aux années 80. Voilà, le régime Mobutu avait aussi son bastion dans la ville de Kisangani. Et nous, on était encore au collège, au lycée. On voit le 13, c'est le début. Kisangani, bastion du Impère aussi, il faut dire, à ce moment-là. Kisangani était perçu comme bastion du Impère, avec des leaders qui étaient vraiment dans le système, au cœur du régime Mobutu. Et Kisangani, ville martyre par les événements de 64, comment a vécu cette opposition du régime Mobutu? C'est avec un sentiment de mitigé. Mitigé, à la fois, c'est que Kisangani ne voulait pas s'exprimer ouvertement contre Mobutu, mais Kisangani en avait aussi marre du régime. C'est-à-dire, il y avait d'un côté la peur de dire non à Mobutu, mais de l'autre côté, la peur du lendemain, mais aussi exprimer son ras-le-bol. C'est-à-dire, Kisangani, à ce moment, à 80, c'est déjà le début de la chute de l'économie. Et la chute de l'économie, il ne faut pas oublier Kisangani avait ressenti terriblement et négativement les effets de la zaïanisation.
En 74.
À 74. Et ces effets ont commencé à se faire sentir avec plus d'impact négatif vers les années 80. Donc Kisangani avait souffert de ces faits-là, et Kisangani avait vécu ces phénomènes-là qu'on a appelés aussi à l'époque les phénomènes des acquéreurs, c'est-à-dire des personnes qui ont bénéficié de la nationalisation et qui commençaient à mal gérer et à voir que tout devait être concentré sur leurs avoirs et sur leur famille. Donc c'est le phénomène où on a vu des Congolais disposer maintenant de grands commerces, entrer là, et Kisangani a vu ce phénomène des acquéreurs. Et c'est comme aujourd'hui le phénomène honorable. Kisangani a vécu ça. Kisangani, c'est les années 80, 2000, c'est aussi le phénomène où les écoles devaient être de plus en plus laïcisées. Le président Mobutu demande aux écoles catholiques d'abandonner les prénoms, d'entrer là. Le phénomène du parti politique entrer dans les écoles. Et Kisangani a fait la résistance. La résistance, il ne faut pas, au nom de cette histoire, souligner un leader de la société civile qui a joué un rôle de catalyseur des consciences vers la catastrophe, Monseigneur Fataki Augustin, qui a dit non aux côtés de Cardinal Malula, non à ce que les écoles catholiques abandonnent les prénoms, non à cette introduction de phénomènes politiques dans l'Église.
Merci.
Et c'était la résistance, et la société civile, déjà à travers l'Église catholique, disait non et commençait à défendre les droits humains, non pas sous le concept de droits humains, mais la revendication de la dignité humaine. Et l'Église catholique a donné le ton, et Kisangani était bien présente dans cette histoire de revendication de droits et de la dignité de la population.
Pierre Kibaka, Kisangani a eu une réaction mitigée dans les années 80. Face à l'opposition naissante, disait Dismas Kitenge. Kisangani, sur le plan économique, subit les effets de la zaïrianisation, la laïcisation. Et de votre point de vue, est-ce qu'on pourrait faire le lien entre la réaction de Kisangani dans les années 80 et vers les années 90 avec la démocratisation?
Oui, on pourra faire un lien, mais je voudrais d'abord rappeler qu'en dehors de ce que Dismas a dit, il faut aussi reconnaître que vers les années 90, Kisangani a beaucoup souffert de pillages. Les pillages qui ont été orchestrés vers les années
91-91.
Ces pillages-là, on sentait déjà le début d'une reprise timide de l'économie. Mais malheureusement, tout a été freiné par ces pillages qui ont une fois de plus mis la ville à genoux. Parce que nous avions des militaires de commando qui étaient à la rive gauche du fleuve Congo, qui ont traversé et ils ont pratiquement pillé tous les magasins à travers la ville. En dehors des magasins, tous les dépôts qui étaient dans la ville ont été pillés, et même certains biens des particuliers. Donc, une fois de plus, on a mis Kisangani à genoux. Et c'est à cette époque-là, juste quand on parlait du phénomène de la démocratisation, on a vu naître à Kisangani certains mouvements de revendication. Et ces mouvements sont partis, comme Dismas l'a dit, à partir de l'Église catholique et même dans les milieux universitaires. Parce que je me rappelle qu'à un certain moment, on a dû même fermer l'université de Kisangani suite aux revendications des étudiants qui avaient marre de cette situation qui se vivait. Au niveau des écoles primaires et secondaires, c'est dans cette période qu'on a connu aussi de grands problèmes au niveau de ces écoles, parce que c'est justement vers les années 93 qu'on a introduit le système de la prime qu'il fallait payer aux enseignants. Et vous voyez que cette population qui était complètement démunie n'était plus en mesure d'envoyer les enfants à l'école. C'est ce qui fait que ces enfants qui étaient abandonnés à leur triste sort ne pouvaient pas trouver d'autre voie que dans le banditisme et autres histoires. Donc tous ces phénomènes-là ont fait que, bien qu'il y ait une certaine résistance qui commençait déjà à naître et une certaine prise de conscience dans certains milieux de la ville, mais il y avait quand même une certaine résistance de la part des autorités, comme Dismas l'a dit, qui n'obéissaient qu'aux ordres de Kinshasa. Et même à un moment, on a senti qu'on voulait répéter les opérations qui s'étaient passées à Lubumbashi, de l'exclusion des non-originaires à Kisangani, mais les jeunes de Kisangani, ça je peux le confirmer, se sont opposés catégoriquement à ces mouvements pour dire « ne venez pas avec vos histoires chez nous ici ». Donc voilà en bref ce qui s'est passé à Kisangani.
Professeur Alphonse Mahindo, il y a Kisangani, berceau des mouvements revendicatifs, qui consacre déjà la naissance d'une société civile. Mais les années 90,
C'est aussi la Conférence nationale souveraine qui a permis à la nation congolaise de découvrir les potentialités de Kisangani en termes d'intellectuels, en termes de valeurs humaines. Professeur.
Oui, évidemment, vous faites bien de le rappeler, parce que souvent on a tendance à oublier, à considérer Kisangani comme une ville un peu périphérique et tout ça, etc., où il n'y aurait pas une capacité intellectuelle suffisante. On voit, tout à l'heure, Dismas le rappelait, le rôle qu'avait joué dans les années 70-80 l'archevêque métropolitain Fataki. Mais il y a aussi l'actuel cardinal de la République démocratique du Congo, Laurent Mosengo, dans les années 90, qui était aussi archevêque métropolitain de cette même archidiocèse de Kisangani, qui a joué un rôle majeur sur le plan politique, non seulement local, mais surtout national, et qui a montré que Kisangani avait de grands intellectuels qui pouvaient contribuer d'une manière significative aux évolutions positives de notre pays, qui a dirigé de main de maître la Conférence nationale souveraine, mais aussi les parlements de transition. Donc on voit là, si vous voulez, que Kisangani joue un rôle important sur ce plan-là. Alors, mais on a également, si vous voulez, à cette même période, tout à l'heure on évoquait la mobilisation des étudiants, qui était quand même très 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 importante à ce moment-là, très importante, si vous voulez. Et ensuite, pas seulement des jeunes étudiants, les jeunes aussi des cités. C'est en ce moment-là, c'est vers ces années-là qu'on a un début de mouvement des jeunes dans des quartiers. Je vois par exemple Place Vendôme à Kabondo, on voit là des jeunes qui s'est mobilisé déjà à ce moment-là et qui vont aller jusque dans les années 90 pour empêcher l'entrée de certains services publics ou policiers et tout ça dans ces endroits-là. Donc il y a une forte mobilisation. Alors, en même temps, on voit aussi qu'il y a certains fils de cette ville qui sont aussi aux antipodes de ces mouvements généraux de revendications en termes de plus de liberté et plus de justice qui vont se permettre, durant cette conférence nationale souveraine, on va voir qu'on a là quelqu'un de cette ville de Kisangani qui parle au nom de la tolérance, de la grande, si vous voulez, collaboration, tout ça, et on a un autre garde de Kisangani qui va lire une motion pour la géopolitique, la discrimination, si vous voulez. Et voilà, on a donc les ambivalences de la vie, quoi. On voit que la même ville qui donne un produit excellent, en même temps qui donne aussi un produit, j'allais dire, toxique pour la ville, pour le pays.
Voilà. Est-ce que le public peut acclamer pour lui-même? Merci beaucoup. Y a-t-il des questions pour cette partie? Madame, commençons par les dames. La priorité aux dames.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon nom est Niki Imaonda, je suis femme politique de la province orientale. Monsieur le journaliste, de 60 à 80, Kisangani est une ville essentiellement politique. Et Kisangani mène le combat pour l'indépendance de ce pays. De 80 à ce jour, les intervenants ont parlé, Kisangani abandonné, l'économie déchue. Monsieur le journaliste, je voudrais poser la question au professeur. Monsieur le professeur, est-ce que vous ne pensez pas que cette ville qui a vu naître les premiers nationalistes du pays, le nationalisme en tant que ciment de la conscience nationale, vous ne pensez-vous pas que cette ville est en train d'être malmenée pour anéantir la conscience nationaliste et que le pays demeure comme ça, comme un pays de prédation, pour servir à d'autres États de se développer et demeurer toujours aussi pauvre? Parce que le nationalisme a commencé ici sans le concours de qui que ce soit, sans même le concours de la faculté de politique, s'il vous plaît.
Merci, madame. Y a-t-il une autre question?
Oui, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Juste savoir, je m'adresse à monsieur Dismas Kitenge. À vous attendre de parler, vous avez parlé un peu sur... Il y avait à ce moment-là les politiciens de notre ville avaient peur de s'exprimer, soit de décider de voir Mobutu avec les MPR. Maintenant, je voudrais savoir cette façon de se comporter, c'est justifié à quoi, hein? Cette façon de se comporter de nos politiciens à cet état-là, c'était par rapport à quoi?
Merci beaucoup. Une troisième question pour Monsieur Kibaka.
Merci, c'est Daniel Mukindi. Je m'adresse la question au monsieur Dismas Kitenge. Parmi les moments tragiques qui ont subi la ville de Kisangani, il y a aussi la guerre des six jours qui ont suscité aussi des réactions, même dans des pays voisins, même dans des provinces voisines. Mais ces guerres, où en est-on avec cette évolution dans notre gouvernement? Quelle est la réaction du gouvernement par rapport? Parce qu'il y avait l'armée rwandaise et l'armée ougandaise qui avaient surgi cette guerre. Mais quelle est la réaction de notre gouvernement?
Merci beaucoup. Il faut signaler que sur le plan historique, la guerre des six jours et l'appellation des affrontements meurtriers entre les armées ougandaises et rwandaises sur les territoires de la ville de Kisangani, qui subit des dégâts énormes du lundi 5 au 10 juin 2000. Il y a également la guerre dite des trois jours en 99, où Kisangani fut le théâtre des premiers échanges de tirs entre l'Ouganda et le Rwanda. Y a-t-il une question pour Pierre Kibaka?
Ok. Moi, c'est Trésor Ndobo Ikasa. Je suis étudiant de la faculté des sciences sociales et d'administration politique, en première licence de sciences politiques. Ma question s'adresse à M. Kibaka. 56 ans après l'indépendance, le bilan est largement négatif. Parce que dans notre province et dans notre ville de Kisangani, l'économie est extravertie. Parce que nous importons beaucoup de l'Ouganda. Bon, je ne sais pas ce qui s'explique ça. Alors, ma question est de savoir, qu'est-ce qui explique cette importation alors que nous avons beaucoup de potentiel dans notre pays? Merci.
Alors, nous commençons par Pierre Kibaka.
Oui. Merci, Trésor. Vous savez que je l'ai bien souligné, que jusque maintenant, notre province en général, Kisangani, n'a pas encore repris totalement sur le plan économique. Parce que quand vous faites le tour de la ville aujourd'hui, vous trouverez que sur le marché, peut-être en dehors du riz qui est produit localement ici, presque tous les autres produits proviennent de l'extérieur. Cela veut s'expliquer simplement parce que nous avons pratiquement abandonné l'agriculture dans notre milieu. Personne, nous n'avons même pas un plan agricole qui a été élaboré et qui est mis en place par nos autorités. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aussi, il faut savoir que depuis un certain moment, quand on a découvert les minerais dans la contrée, tout le monde est allé chercher les minerais pour s'enrichir facilement. Donc, ce sont tous ces éléments qui font que aujourd'hui, la ville de Kisangani puisse importer même les œufs qui doivent venir de l'Ouganda. Donc, cela ne pourra s'arrêter que si nous avons un véritable programme agricole qui est mis en place par nos autorités. Et en plus, il faudrait que la population sache que l'agriculture, c'est un domaine aussi qui paye, comme tous les autres domaines. Donc, ça ne sert à rien de continuer à crier que nous avons une économie forte, alors que nous devons tout importer. Donc, voilà les éléments essentiels par rapport à cela.
Alors, Pierre Kibaka, j'ajoute pour vous cette question. Est-ce que Kisangani, qui n'a pas échappé, comme le reste de la République, aux affres de la zaïrianisation en 1974 et des pillages, est-ce que Kisangani s'est retrouvé dans le gouffre, pratiquement dans l'enfer sur le plan économique?
En fait, dire dans l'enfer, je ne le dirais pas, mais dans le gouffre, oui. Parce qu'il faut vous rappeler aussi que en dehors de cette période-là, peut-être on n'est pas encore à la troisième partie de notre... nous avons aussi connu beaucoup de problèmes avec l'entrée du RCD à Kisangani. Donc, tous ces phénomènes-là qui se sont succédés dans la ville, chaque fois que la ville essayait de se ressaisir un peu, il y avait toujours des phénomènes, des pesanteurs qui venaient bloquer. Et si vous permettez, je voudrais peut-être revenir à la question qui a été posée à Dismas par notre ami Daniel, parce que c'est un dossier que nous suivons régulièrement. Par rapport à la dossier de la guerre des six jours, mes chers amis, ce dossier est toujours en cours. Parce qu'en 2005, quand la Cour internationale de justice a rendu son arrêt, la Cour internationale de justice avait condamné l'Ouganda à pouvoir réparer les préjudices causés dans la ville de Kisangani. Mais il était question que les deux pays se mettent d'accord pour trouver les montants à allouer. Mais au moment où nous parlons, le dossier est relancé au niveau du ministère de la Justice à Kinshasa. Il y a déjà une commission qui est mise en place, probablement qui passera ici, parce qu'il faudrait qu'on relance ce dossier au niveau de la Cour internationale de justice.
Merci. Professeur Mahindo, à la question qui vous a été adressée, j'ajoute celle de savoir si Kisangani, ayant un statut de ville martyre, a finalement pu panser ses blessures.
Oui. Alors, bon, je pense que si on doit parler de martyrs, on parlerait carrément de tout le Congo, hein. C'est tout le Congo qui est martyr. Si vous regardez, évidemment, quand vous... Alors, donc, si vous...
S'il vous plaît, laissons le professeur Maïndo parler.
Alors, je comprends bien la réaction de certaines personnes, mais quand on regarde, déjà dans les années 80, il y a eu un dossier tout entier d'une revue qui s'appelle Revue Politique Africaine, qui avait été coordonnée par Gauthier de Villers et Jean Omasombo, et le titre de cette revue, disons, de ce dossier de revue, c'était Zaïre, un pays à reconstruire. Et donc, il montrait bien comment les pays s'étaient complètement effondrés, qu'il fallait refaire. Et ça concernait tous les pays. Mais si vous regardez, par exemple, la province de l'Équateur, l'ex-province de l'Équateur, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Mbandaka, c'est un village, etc. Donc, on voit bien, si, vous allez à le Bandundu, c'est pareil et tout ça. Et donc, même à Kinshasa, dont on parle, on dit que ça a été reconstruit, c'est uniquement quelques grandes artères. Si vous allez en dehors de grands boulevards, c'est terrible, c'est tragique. Et donc, je ne voudrais pas ici revenir sur ces débats-là. Mais cessons de trop lamenter, de nous victimiser en tant que ville de Kisangani. Puisque, comme le disait Wole Senika, crier, gémir, pleurer, c'est également l'âge. Alors, pour revenir...
Kisangani... À la question de madame, Kisangani est-elle en train de perdre son statut de ville nationaliste?
Alors, je voudrais dire ici, par rapport à ça, Kisangani n'est pas en train de perdre, sa place dans la vie, dans le concert des villes congolaises. Vous savez, comment s'élabore une politique publique? Pour qu'il y ait des politiques publiques qui puissent satisfaire les besoins des Boyomés, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres villes aussi qui sont en train de revendiquer les mêmes choses que nous. Et donc, il faut que nous puissions avoir de la voix qui porte pour nous faire entendre de manière à ce que nos intérêts à nous soient pris en compte. Et je voudrais ici rappeler que Kisangani a donné quand même et donne encore des grands responsables dans ce pays. Le premier président de la Cour suprême de justice aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un garçon de Kisangani, c'est un garçon de Kabondo. Et si vous voulez, oui, la ville de Kisangani a donné aussi un vice-premier ministre en charge de la reconstruction, au moins deux ADG Merci. De l'année. Donc je peux vous citer tout un tas de grands responsables de ce pays qui sont de cette ville ici. Donc on n'est pas les plus mal lotis en la matière. Alors donc, je voudrais qu'on ne perde pas de vue de cette chose-là. Mais simplement, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous devons faire en sorte que nous, société civile, avec les politiques, puissions agir ensemble pour obtenir que on puisse prendre en compte nos revendications.
Merci. Dismas Kitenge, vous avez un tas de réponses à donner également.
Merci. Concernant la première question, l'attitude des politiques pendant cette période-là, s'expliquer par quoi? J'ai donné tout à l'heure quatre éléments. Il fallait en ajouter un cinquième élément, c'est l'élément d'ordre économique. Mais de tous ces cinq éléments, quel serait l'élément le plus déterminant, hein, qui a expliqué véritablement le comportement des politiques de la ville de Kisangani à ce moment? C'est leurs intérêts, la préservation de leurs intérêts, intérêts politiques, intérêts économiques, au détriment des intérêts de la population qu'ils étaient censés représenter. Et cela a créé un divorce entre la population et ses leaders, puisqu'il n'y avait plus de mariage. Et l'attitude peut être extrapolée jusqu'à maintenant et essayer d'interroger cette attitude-là, et vous trouverez toujours comme l'élément déterminant la préservation des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs. Donc voilà. La guerre des six jours, il faut dire un mot, et je reviendrai encore faire des commentaires sur l'attitude des politiques. L'attitude des politiques, il faudrait un bon politique pour qu'il tienne compte des intérêts communautaires, il faut qu'il y ait une prise de conscience populaire de la part de mandataires, des personnes qui lui ont donné le pouvoir, des mandants. Et à ce moment-là, si ces personnes jouent leur rôle en exerçant la pression sur les politiques, sur leurs représentants, et en essayant de le contrôler, de les questionner, de les interpeller, à ce moment-là, si cette pression-là, et continue toujours, les politiques vont tenir compte des intérêts collectifs. Ils vont dire, ok, mais il ne faut pas non plus oublier les contextes dans lesquels la RDC a évolué sur le plan politique pendant cette période. C'est les contextes de la dictature où il n'y avait pas de véritables élections. Bon, il y en a eu quelques-unes, mais on sait comment. Il y avait aussi des gens qui ne réussissaient pas aux élections, mais qui étaient nommés. Donc je pense qu'il faut installer aussi une véritable elle est démocratie à la base, mais aussi donner une véritable conscience populaire auprès des électeurs ou auprès de ceux qui donnent le pouvoir aux autres pour qu'ils jouent véritablement leur rôle. Mais là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Concernant la guerre de six jours, je dirais, il y a les côtés politiques et diplomatiques. Il y a les côtés judiciaires qui a donné des éléments de réponse qui ne sont pas des réponses satisfaisantes dans l'ensemble, mais qui sont des réponses sectorielles. Quand je dis des réponses sectorielles, par exemple sur le plan judiciaire international, on a cet arrêt. Mais ça ne suffit pas, il reste toujours l'impunité. L'impunité surtout des acteurs congolais qui ont joué un rôle dans la perpétration de ces crimes. Puisqu'il faut dire les crimes qui sont relevés ici à travers les conflits armés, la fameuse guerre dite de 3 jours ici à 99 et la guerre de 6 jours en 2000, il faut dire que ce sont des crimes internationaux, imprescriptibles, qui doivent être poursuivis quels que soient les temps. Mais ces auteurs courent encore.
Merci.
Ces auteurs sont encore. Et la question de la réparation, il faut l'entendre au sens global. La réparation n'est pas encore faite. Il n'y a pas que l'Ouganda qui doit réparer. Même l'État congolais, qui a eu sa responsabilité politique, sa responsabilité morale dans la commission de ces crimes, c'est à cause de sa défaillance qu'il a eu ses armées étrangères qui Merci. Sont venues se battre ici, à sa part de responsabilité dans la réparation.
Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour nous-mêmes? Voilà, comme vous le savez, nous disons souvent que le temps ne nous attend pas. Est-ce qu'on peut le répéter? Le temps? Et donc il reste moins de 10 minutes pour qu'on clôture l'émission. Voilà, nous abordons la dernière partie de cette émission, c'est la dernière décennie, 2000 à 2016. Nous savons que sur le plan politique, le pays est réunifié, les élections de 2006 et 2011 ont lieu, ainsi que la mise en place des institutions provinciales, la décentralisation notamment. Je vais poser des brèves questions aux invités et je donnerai la possibilité au public de faire des propositions pour le développement de la ville de Kisangani. Commençons par vous, Pierre Kibaka. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme acquis pour la ville de Kisangani de 2000 à 2016?
Bon, comme acquis pour la ville de Kisangani, comme vous l'avez dit, nous avons connu les élections de 2006 et les élections de 2011. Contrairement aux autres villes du pays, pendant ces élections, on n'a pas connu beaucoup de problèmes au niveau de la ville. Donc les élections se sont déroulées dans un climat apaisé, mais malheureusement, je dis bien dans un climat apaisé, mais malheureusement, le grand problème que nous avons connu ici, c'est que, comme Dismas l'a souligné, ces élus sur qui la population comptait beaucoup, aujourd'hui, ne s'occupent même plus de cette même population. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand vous faites les sondages à travers la ville, les gens se disent, pourquoi je dois continuer à aller voter pour des gens qui vont aller s'enrichir demain. Donc c'est ça le grand problème.
Donc il y a une perte de confiance.
Il y a une perte de confiance totale sur les dirigeants par la population. En deuxième lieu, il faut reconnaître quand même qu'à Kisangani, pendant cette période, il y a quand même une certaine reprise de certaines activités économiques. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la ville de Kisangani est reliée à travers le monde par téléphone, par Internet. Ce sont des choses qu'on n'a pas connues à l'époque. À l'époque, je vous rappelle, Alain, que pour aller à l'Internet, on s'est réveillé parfois à 5 heures du matin pour faire la queue devant un cybercafé. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine évolution. Et même sur le plan économique, on sent qu'il y a quand même une certaine relance de l'économie.
Dismas Kitenge, quels sont les acquis?
Pour moi, ce qui est considéré par la population de Kisangani comme acquis, c'est la revendication populaire de ses droits. Donc la population a pris conscience qu'il y a des droits qu'elle doit arracher, qui ne peuvent pas lui être octroyés. Donc la revendication. Deuxièmement, c'est la préservation de certains textes que la population estime fondamentaux, tels que la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, qui consacre tout un chapitre sur les questions des droits humains et des libertés fondamentales. Donc c'est vraiment important. Troisième acquis, c'est que dans le concert, dans la question géopolitique de la RDC, la ville de Kisangani doit être prise en compte. C'est-à-dire la visibilité et la prise en compte de la ville de Kisangani dans toute question nationale. Quatrième acquis, c'est aujourd'hui Kisangani, non pas seulement une ville nationale, mais c'est aussi une ville qui doit être considérée sur le plan international. C'est-à-dire les soucis de la revalorisation de Kisangani sur tous les plans demeurent aussi comme des acquis que la population considère.
Professeur Mahindo, en plus, est-ce qu'on peut considérer que sur le plan économique, on peut parler d'une classe moyenne au niveau de la ville de Kisangani?
Bon, classe moyenne, c'est peut-être exagéré, mais on peut quand même dire qu'il y a, une évolution positive dans le sens où on voit qu'il y a de plus en plus de richesses qui se créent dans la ville, et ça se voit à travers un certain nombre de constructions, des maisons dans les nouveaux quartiers. Vous allez à Motumbe, vous allez vers Simisimi ou vers Kibibi, on voit qu'il y a de plus en plus une nouvelle classe sociale qui naît, qui a une culture de construction pour dans les durs, investir dans les durs. Mais en même temps, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que il y a également une forte conscience ici en termes de questions environnementales. Kisangani ici, c'est la ville où on forme le plus grand nombre de jeunes à ces questions-là d'environnement, avec de gros projets qui sont mis en œuvre ici, notamment par l'Union européenne au niveau de l'université de Kisangani, avec FCC, Réafor avant, etc. Donc on est là, si vous voulez. Et Kisangani, ce que je voulais dire aussi, c'est que Kisangani est en train de redevenir ce qu'elle était initialement, c'est-à-dire une ville carrefour. Ce qu'on voit là, la reprise de ces liens avec les différentes parties du Congo et du continent.
Oui. Merci beaucoup. Est-ce que le public est là? Est-ce que le public est là? Est-ce que Kisangani est là? Merci beaucoup. Alors nous allons terminer cette dernière série par des propositions. Nous avons besoin de quelques propositions du public, de la population de Kisangani pour le développement de cette ville. Soyez bref et concis, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Je m'appelle Adrien Banutia du groupe Lotus. J'ai seulement des propositions. La première proposition par rapport aux trois périodes de l'émission, donc je demande à ce que les acteurs politiques puissent confirmer ces nationalismes politiques. La deuxième proposition, c'est de créer un espace de dialogue pour la jeunesse politique de notre ville de Kisangani. Merci beaucoup.
Merci. Il n'y a pas de dame, à part Madame Niki qui a parlé, il n'y en a pas d'autre. Allez-y, monsieur.
Oui, c'est Maître Sabouni. Je voulais dire ceci concernant la recommandation. Nous voulons à ce que nous, de la ville de Kisangani, nous puissions quand même cultiver l'esprit de non-concurrence, parce que nous devons faire asseoir la démocratie et mettre les droits, l'état des droits dans notre province.
Merci beaucoup. Donnez la parole à la dame, s'il vous plaît. Oui, madame.
Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. Je réponds au nom de Chantal Lombalé, coordonnatrice du parti PND, Parti National pour la Démocratie et le Développement. Voici notre proposition. Le seul moyen d'émerger l'économie de notre pays est l'agriculture. Pour y arriver, il faudrait que l'État crée une banque nationale pour microcrédit afin d'accompagner les opérateurs économiques. Sans cela, il n'y aura pas vraiment l'émergence. Merci beaucoup pour la parole.
Merci beaucoup. Merci. On est très tenu par le temps, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste moins d'une minute. S'il vous plaît. Mettons-nous d'accord, s'il vous plaît. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Est-ce que Kisangani est là? Est-ce que Kisangani est là? Vous savez que dialogue entre Congolais, c'est combien de minutes? Écoutez-moi. On a reçu un bonus, s'il vous plaît. On a reçu un bonus de 10 minutes que nous avons déjà épuisé. Alors, nous allons écouter notre frère et puis les invités vont réagir par rapport aux propositions et nous allons clôturer. Allez-y, s'il vous plaît.
Oui, moi c'est Godefroy Midouandoule, étudiant en gestion des sciences politiques et administratives à l'Université de Kisangani. Ma proposition est celle-ci. Il faut que la gestion de la chose publique pour un bon développement de la vie de Kisangani soit remise entre les mains des élites. Voilà ma proposition.
Voilà, professeur Mahindo, il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Il faut revenir à l'agriculture, il faut renforcer la décentralisation. Quelle est votre réaction en guise de conclusion déjà?
Oui, alors, en guise de conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que toutes les propositions qui ont faites sont bonnes. Simplement, ça rappelle une chose, que la principale, sinon l'unique mode d'action, si vous voulez, pour résoudre ces problèmes, c'est réformer l'homme. Il faut d'abord qu'on change l'homme de Kisangani.
S'il vous plaît, suivons le professeur, sinon le débat perd son sens.
Oui, alors, donc, ce que je voudrais dire, tout ça, l'agriculture, la bonne gouvernance, tout ça, c'est d'abord une question d'homme. Il faut que nous puissions d'abord changer l'homme congolais, l'homme boyomé, l'homme de Kisangani doit se transformer, doit changer. Alors, c'est pour ça que je propose que l'homme congolais, pour le transformer, il faut donc travailler son mental, comme disait Gramsci. Si vous voulez changer le monde, il faut conquérir l'hégémonie, c'est l'intellectuel. Et, en deuxième lieu, il faut développer trois attitudes. La réactivité, la préactivité et la proactivité. Voilà, avec ça, l'homme sera capable de faire face aux défis que nous pose le développement de cette ville.
Merci, professeur. Alors, comme il n'y a pas eu beaucoup de dames qui ont parlé au cours de ces débats, je vais accorder exceptionnellement la parole à Madame Niki. Des propositions très rapidement, Dismas Kitenge et Pierre Kibak avant de parler, nous allons clôturer.
Je vous remercie sincèrement, mon frère. Nous sommes dans une phase de négociation des enjeux politiques. Comme les vieilles démocraties dans le monde, les enjeux politiques tournent autour, les échéances politiques tournent autour des enjeux politiques. Nous devons arriver, première proposition, arriver à définir les enjeux politiques par rapport à notre pays. Et par rapport aux enjeux politiques, en tout cas, on ne peut pas passer outre le compromis et le dialogue. Voilà les propositions que je fais.
Merci Madame Dismas Kitenge. Merci beaucoup.
Très rapidement, les différentes propositions...
S'il vous plaît.
Les différentes propositions ont été très intéressantes, pertinentes, utiles, mais moi je les formule en trois grands axes. Le premier axe, c'est la formation de la jeunesse. Il faut vraiment former davantage la jeunesse de Kisangani. Deuxièmement, c'est la valorisation des initiatives locales à la base. Il faut valoriser ces initiatives. Troisièmement, à mon sens, c'est l'ouverture de la ville de Kisangani, sur tout le plan. Il faut que l'homme de Kisangani soit ouvert, accepte les autres, s'accepte, s'affirme dans la compétitivité.
Pierre Sibaka.
J'adhère pratiquement à toutes ces propositions, mais je voudrais seulement dire ceci. Le grand souci que nous avons dans la ville, c'est par rapport aux élections locales. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça nous pose énormément de problèmes dans la gestion de nos entités de base. Donc nous souhaitons à ce que très rapidement, on puisse organiser les élections locales pour que nous ayons les véritables organes qui vont représenter la population à partir des organes, à partir des entités locales qui doivent servir de socle du développement de notre ville.
Alors, il y a quand même des gens, malgré tout, qui nous ont écrit et nous ont fait parvenir de réactions. Il y a une proposition, il faut l'érection du monument de Patrice Emery Lumumba à Mangobo. Il y a Saint-Forien Bambisongo Sengi, assistant à l'ULK Kisangani, qui dit pour la ville de Kisangani et la province de la Tchopo, la politique étant le domaine de gestion de tous les secteurs de la vie, la classe politique boyomaise doit prendre de la hauteur et observer la maturité politique, gage du vrai décollage. Mesdames et messieurs, dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. C'est terminé pour aujourd'hui. Est-ce que Kisangani est content? Est-ce que Kisangani est content? Nous disons merci à Pierre Kibaka, Dismas Kitenge, professeur Maïndo. Merci également à Mathieu Join Lévite, délégué général de la Fondation Alliance Française en RDC, directeur de l'Alliance Française de Kisangani, pour nous avoir cédé la salle Jean Fina pour cette émission. Merci à Radio Okapi Kisangani, merci à Guy Karema pour sa collaboration et merci à toute la population boyomaise d'être venue nombreuse participer à cet échange. La réalisation était assurée par Guy Maté, assisté d'Aliana Ali Panagama et André Kitenge, à la technique Sylvain Matundu, présentation et coordination Alain Hirou Mouchige. Bonne fête d'indépendance à tous.